Je vous propose de reprendre. Alors, cette deuxième partie, comme cette deuxième heure, comme l'année dernière, est appelée séminaire, ce qui signifie que chaque semaine, pendant les 12 prochaines semaines, la semaine dernière était un peu exceptionnelle, nous aurons un invité qui fera un exposé en rapport avec le cours, selon la formule consacrée, exposé à la suite duquel nous aurons un échange. Je ne sais pas très bien, l'an dernier nous avions limité cet échange à un dialogue entre le conférencier et moi-même. Je ne sais pas si on l'étendra à d'autres voix, s'il y aura d'autres interlocuteurs pour nous interloquer, comme je disais tout à l'heure. On verra. En tout cas, le premier conférencier aujourd'hui est Philippe Chardin, qui est professeur de littérature comparée à l'université de Tours, qui, dans un certain nombre de travaux, a parlé de Proust depuis sa thèse, publiée sous le titre « Le roman de la conscience malheureuse, Svevo, Gorki, Proust, Mann, Musil, Martin Dugard, Brock, Roth et Aragon », mais il a parlé de Proust dans d'autres ouvrages, notamment, ça c'est publié en 1982, cette thèse, notamment « L'amour dans la haine ou la jalousie dans la littérature moderne », Dostoïevski, James, Svevo, Proust, et surtout un ouvrage récemment consacré dans sa totalité à Proust, « Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare », publié en 2006 chez Champion. Afin de le présenter, j'ai aussi constaté, ce que j'ignorais, qu'il était l'auteur d'une œuvre littéraire, dont un roman qui a attisé ma curiosité, intitulé « Alma Mater, le premier roman comique inspiré par l'université française ». Je vous livre le titre, mais je n'ai pas lu le roman. J'espère le lire maintenant, parce que le titre m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, il nous a proposé comme titre « Amoralité proustienne ». La
Merci.
Parole est à vous.
Alors, il m'a semblé, d'où le choix du titre de ma communication, que l'attention s'était davantage tournée vers les mises en scène les plus spectaculaires des immoralités dans « À la recherche du temps perdu », notamment dans Combray, dans « Sodome et Gomorre » ou dans « Le tort trouvé », et beaucoup moins vers les amoralités. On a moins remarqué ce naturel désarmant et cet humour niveleur, fort éloigné du ton de défi qu'adoptèrent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ces autres grands révolutionnaires en morale que furent Nietzsche, Oscar Wilde, André Gide ou les surréalistes, grâce auxquels Marcel Proust affirme et démontre constamment la non-compatibilité avec les jugements moraux, d'une part du fonctionnement de la plupart des codes sociaux et d'autre part, surtout, de quelques-unes des valeurs les plus essentielles de son propre univers, le monde de l'enfance, le désir, le sentiment ou l'art lui-même. Certes, le mot d'amoralité, apparu à une date tardive, 1885, n'est pas employé au sein de la recherche. Et quand les mots « amoral » ou « amoraux » apparaissent fugitivement, ainsi dans une esquisse relative à la vie de Bergotte, ils ne semblent pas avoir sous la plume de Proust un sens spécifique bien distinct de celui d'immoralité. En revanche, c'est toute une série de locutions faisant intervenir la notion d'indifférence. Il est indifférent. Je trouvais absolument indifférent. Par indifférence morale, locution récurrente et de grande importance tant dans le domaine moral que dans le domaine affectif, quand par exemple le narrateur est devenu parfaitement indifférent aux femmes qui ont été durant un temps au centre de sa vie, ou quand, à l'inverse, il se croit indifférent au souvenir de sa grand-mère ou à la présence d'Albertine, et qu'un bouleversement de toute sa personne va lui démontrer qu'il se trompait. Ce sont donc ces locutions qui prendront en charge, par exemple en matière de suspension de tout jugement sur les préférences sexuelles, quelques-unes des proclamations d'amoralité les plus étonnantes du roman, comme celles que vous avez citées la dernière fois et tout à l'heure. Je commencerai par retracer brièvement la victoire de l'amoralité, celle de l'anxiété, celle de l'arbitraire, celle de la sentimentalité sur la loi morale au sein du trio familial au moment du dénouement du drame du coucher à Combray. J'envisagerai ensuite la manière dont les codes sociaux ou professionnels peuvent avoir dans la recherche leur propre loi, bien éloignée des universaux de la loi morale. En outre, les figures d'autorité les plus respectables pourront soudain manifester la plus grande indulgence pour une transgression manifeste des principes et des bienséances, produisant ainsi des effets comiques d'amoralité qui, d'une certaine manière, comme disait Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, que Proust a très tôt admiré et pastiché, sape les bases par le rire. J'essaierai de montrer dans la partie suivante comment les valeurs les plus sacrées de la recherche, le désir, le sentiment, dans une certaine mesure l'art, pouvaient rendre indifférents aux lignes de partage tracées par cette loi morale de type kantien, universelle, impitoyable, intangible, qui a imprégné la formation de Proust dans sa famille et dans son éducation scolaire, non seulement au lycée avec Darlu, mais aussi à l'université, notamment à travers l'enseignement d'Émile Boutroux. Mais de ce dernier kantisme humanisé, Proust a sûrement gardé une certaine nostalgie. Je terminerai précisément en soulignant à quel point sa conception de la création artistique, qui aurait pourtant semblé devoir être un terrain d'élection pour ces professions de foi d'amoralité que l'on rencontre par ailleurs si souvent chez lui, se distinguait nettement de l'art pour l'art, campant chez Théophile Gautier ou chez Flaubert, du côté d'une amoralité hautaine et sereine, et comment une espèce de loi kantienne, de moralité altruiste, d'aspiration plus dostoïevskienne aussi au jugement et au châtiment, font résurgence, justement là où on ne les attendrait pas, non parce que l'écrivain ou l'artiste devrait se faire prédicateur, ce que Proust refuse énergiquement, mais parce que ce sont les sources, le processus d'élaboration et la finalité de l'art et de la littérature eux-mêmes qui seront constamment mis par lui en rapport, en particulier dans le temps retrouvé, avec une certaine forme de rédemption éthique, je vous emprunte l'expression. Combray a, comme on le sait, sa scène primitive, celle du baiser maternel et du drame du coucher, qui ne correspond pas exactement à la définition que Freud donne de l'épisode crucial fantasmatiquement reconstitué, et qui se situe dans la recherche à un âge sensiblement ultérieur. Mais même lecteurs de Freud, ce que ne fut pas Proust, on le rappellera en passant, les écrivains ne sont tenus à rien en matière de scène primitive. Ainsi, Pascal Quignard anticipera quant à lui et fera remonter dans tous ses livres sa propre scène primitive omnubilante, la fameuse scène qui nous manque au moment précis de la conception. S'il est en tout cas au moins un point commun capital entre vision freudienne et vision proustienne du monde, c'est bien cette idée d'une intensité psychique extraordinaire des origines et de la possibilité d'y faire ultérieurement retour par la mémoire volontaire ou involontaire. Or, ce que retrace notamment la scène primitive de Combray, c'est la défaite originelle de la loi morale et de la volonté, vaincue par des forces archaïques et puissantes qui, présentes tour à tour en chacun des membres du trio familial, se relaient pour les bafouer. Ce sont d'abord, bien sûr, l'anxiété dévorante de l'enfant et son désir de ne pas s'endormir privé de la présence de sa mère, qui l'amènent à céder à son impulsion nerveuse et à commettre, en se relevant et en attendant comme un fou dans le couloir, une transgression inouïe des lois en vigueur au sein de cette famille. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre, 5 minutes après, j'aimais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman, c'était lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. Une autre de ces notices d'apparence didactique, bien qu'elle ne puisse guère que signaler l'énigme, ce genre de notice abonde dans Combray, soulignera dans un second temps que ce ne sera pas davantage au nom de la loi, mais en vertu d'une décision d'un arbitraire énigmatique et amoral, parce que tel est mon bon plaisir ce soir, en somme, que le père graciera l'enfant, l'autorisant même à passer la nuit dans la même chambre que sa mère. On remarquera que les termes relatifs à la justice et au droit, notamment au droit international avec lequel l'ancien élève de l'école des sciences politiques qui était Proust était familier, sont ici, comme ils le seront souvent au cours du roman, employés de manière ludique et pour signaler que ces notions sont en l'occurrence inopérantes. On s'est davantage intéressé, me semble-t-il, au même genre d'utilisation héroïque-comique par Proust de tout un lexique appartenant au domaine religieux. Indice peut-être dans les deux cas, autant d'une bonne dose d'incrédulité de sa part que d'une certaine nostalgie de la foi, foi en Dieu ou seulement foi en des lois raisonnables qui régiraient enfin équitablement les rapports entre les individus ou entre les nations. Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère, parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente, ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure. Ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant l'heure rituelle, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication ». Mais aussi parce qu'il n'avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Pour la mère du narrateur qui prendra le relais au sein du trio familial, cette nuit revêtira également un caractère d'exception, d'abdication, contraire au caractère universel, impitoyable, intangible de la loi qu'elle s'était fixée et qui voulait qu'elle ne laissât pas transparaître ses émotions devant son fils. Sa trop grande sentimentalité, c'est ainsi d'ailleurs que Proust interprétait le titre du roman de Flaubert qu'il préférait. L'éducation purement sentimentale où les maîtres n'ont fait appel chez le jeune homme qu'ils avaient à élever qu'au sentiment, glosait-il, aura eu à son tour raison des endiguements moraux. Elle s'énervera, elle aussi, et aura du mal à retenir ses larmes. Doppelbein des mères proustiennes, dont les principes et la sensibilité ne sont pas toujours en accord. C'était déjà en pleurant que Madame Santeuil prêchait à son fils la volonté la plus inflexible. On peut ce qu'on veut, ce qui atténuait quelque peu l'effet de ses énergiques paroles. N'oublions pas enfin cette autorité seconde que représente pour l'enfant l'espèce de gouvernante qu'est devenue Françoise. Certes, celle-ci manifeste sa désapprobation devant les premières tentatives de contournement des règles que représente le fait de la supplier de porter une lettre au moment où la famille reçoit un invité. Mais justement, une sorte de notice explicative précise alors que cette réprobation elle-même se rattache non à l'observance d'une loi morale, mais ce qui est tout différent et presque antithétique à un code, lui aussi énigmatique et arbitraire, dont le caractère pittoresque, archaïque et inquiétant est suggéré par une analogie qui reviendra au cours de la recherche avec telle de ces lois antiques dont on s'étonne qu'elle ait pu interdire avec la plus grande sévérité des choses anodines et ordonner d'abominables cruautés. Elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses, ce qui lui donnait l'apparence de ces lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Autre forme d'amoralité importante tout au long de la recherche que nous allons bientôt retrouver dans la partie qui sera davantage centrée sur les incarnations collectives et sociales de l'amoralité, elle apostrophe, dans l'univers proustien. Celle des codes, qui entrent fréquemment en contradiction manifeste et comique avec la loi morale, et qui règnent de manière tyrannique dans les milieux sociaux bien différents, chez les grands seigneurs comme chez les domestiques. La moralité guermante, elle apostrophe encore, qui combine une parfaite indifférence aux valeurs morales les plus courantes et une extrême attention accordée aux questions de forme pour tout ce qui touche à l'étiquette, est une des principales composantes du génie de la famille, sur laquelle le narrateur revient souvent, en particulier dans le côté de Guermante, avec une sorte d'ébahissement à la fois amusé et scandalisé. Pour figurer les paradoxes qui, en matière de morale, caractérisent cet esprit, Proust utilise différentes figurations spatiales, comme celles de déplacement, de déviation, de renversement ou de retournement. Dans les manières de M. de Guermante, esclave des plus petites obligations et délié des pactes les plus sacrés, je retrouvais encore intact, après plus de deux siècles écoulés, cette déviation particulière à la vie de cour sous Louis XIV et qui transporte les scrupules de conscience du domaine des affections et de la moralité aux questions de pure forme. D'ailleurs, par un reste hérité de la vie des cours, qui s'appelle la politesse mondaine et qui n'est pas superficielle, mais où, par un retournement du dehors au dedans, c'est la superficie qui devient essentielle et profonde, le duc et la duchesse considérés comme un devoir plus essentiel que ceux, assez souvent négligés au moins par l'un d'eux, de la charité, de la chasteté, de la pitié et de la justice, celui plus inflexible de ne guère parler à la princesse de Parme qu'à la troisième personne. Dans l'évocation de ces paradoxes vertigineux de la morale mondaine, l'humour du narrateur revêt deux tonalités assez différentes. Humour léger et assez bienveillant de sa part, humour rose, si l'on peut dire, lorsque cette superbe indifférence morale conduit les femmes du monde à fermer les yeux sur les mœurs de leurs invités et même à jouer assez volontiers un rôle d'entremetteuse dans le cadre de leurs différentes relations. Humour plus grave et plus noir, en revanche, lorsqu'est évoquée cette parfaite indifférence à la mort des autres, pourvu que les rites soient respectés, qui est une autre composante de cette amoralité devenue insensibilité et cruauté, qu'incarne de manière bouffonne, odieuse et profanatrice le comportement du duc de Guermante au moment des agonies et des enterrements, en particulier dans les pages bouleversantes qui retracent la mort de la grand-mère. Les rapports respectifs à Eros et à Thanatos de cette amoralité mondaine se trouveront une dernière fois évoqués, cette fois-ci sans conteste, avec plus d'irritation et de mépris que d'intérêt exotique, le mot est dans le texte, et que d'indulgence amusée, dans une des satires les plus amères contenues dans le monologue narrativisé final du temps retrouvé. Un des mois, celui qui jadis allait dans ces festins de barbares qu'on appelle dîners en ville, et où, pour les hommes en blanc, pour les femmes à demi-nues et emplumées, les valeurs sont si renversées que quelqu'un qui ne vient pas dîner après avoir accepté ou seulement n'arrive qu'au rôti commet un acte plus coupable que les actions immorales dont on parle légèrement pendant ce dîner, ainsi que des morts récentes et où la mort ou une grave maladie sont les seules excuses à ne pas venir, à condition qu'on eût fait prévenir à temps pour l'invitation d'un 14e qu'on était mourant. C'est en revanche un vibrant éloge paradoxal de l'indifférence à toute espèce de morale chez les vrais professionnels qui s'inscrit en somme dans cette longue tradition générique de l'éloge paradoxal des antivaleurs qui a été retracée par Patrick Dandray que prononce le narrateur au moment où il voit en Aimé l'homme le plus apte à le servir avec une probité vénale sans faille dans le cadre de cette enquête relative aux mœurs d'Albertine qu'il entend rouvrir après la mort de celle-ci. Il appartenait à cette catégorie de gens du peuple soucieux de leur intérêt, fidèles à ceux qu'ils servent, indifférents à toute espèce de morale et dont, parce que si nous les payons bien, dans leur obéissance à notre volonté, ils suppriment tout ce qui l'entraverait, car ils se montrent aussi incapables d'indiscrétion, de mollesse ou d'improbité que dépourvus de scrupules, nous disons, ce sont de braves gens. Dans un autre passage qui donne au narrateur l'occasion de laisser une fois encore libre cours à son audacieux syncrétisme, se trouveront rapprochés avec le plus grand naturel, à la faveur d'une parenthèse, différents corps de métier qui ont l'habitude de séparer la moralité de tout un ordre d'actions qu'ils exercent. Sans qu'ils soient apparemment tenus compte du fait que, pour ce qui est d'un des exemples énumérés, au moins celui de juge, la profession indiquée est généralement tenue pour hautement morale, alors que le premier cas invoqué, celui qui appelait l'analogie, était celui de Jupien, lequel exerce à ce moment du récit une profession en revanche assez généralement considérée comme extrêmement immorale, celle de tenancier de bordel. Comme toute forme de comique, le comique d'amoralité est à répétition chez Proust. J'en mentionnerai quatre occurrences particulièrement marquantes. À chaque fois, dans ces différents exemples, une autorité morale supposée, un pilier de la société, un jeune Français patriote pendant la guerre de 14, une mère de famille, le chef de la sûreté, une femme du peuple, un peu puritaine, manifeste la plus grande indulgence, une fois dissipé un malentendu ou un quiproquo initial, envers un type de rapport d'une immoralité patente dont on aurait pu penser qu'il aurait tout lieu de les scandaliser. Mais on y soit qui mal y pense. Leur indignation ne portait nullement sur ce qu'on croyait, mais sur un autre aspect de la question, ou portait sur la forme et pas sur le fond, ou bien encore on n'avait pas compris ce dont il s'agissait. Dans le cas du chasseur d'hôtel qui avait d'abord cru qu'on lui demandait de livrer sa patrie, et qui sera sereine lorsqu'il comprend qu'il est seulement question de livrer son corps. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Madame de Surgy n'aurait vu aucune objection à ce que ses fils répondent aux avances de Charlus et le fréquentent de manière intéressée. Mais ce qu'elle ne pouvait admettre, c'était la forme incongrue que prenaient ses visites. C'était le fait que le baron, à chacune de ses visites, pince le menton de ses fils comme mu par une sorte d'horlogerie à répétition. Et c'est, conclut le narrateur, parce qu'elle sentait affluer la folie en Charlus, bien plus que par moralité, qu'elle décide de mettre un terme aux visites. Dans la scène étrange, scabreuse et célèbre de la convocation pour détournement de mineurs du narrateur, comme toujours supposé parfaitement innocent, il n'aurait voulu que bercer dans ses bras une enfant qui lui rappelait Albertine. Le chef de la sûreté, dont il sera assez négligemment précisé qu'il, je cite, « aimait les petites filles », après avoir feint en public la plus grande indignation, resté seul avec le narrateur, ne lui reproche plus que son imprudence et le caractère excessif, susceptible, selon lui, d'attirer l'attention de la somme qu'il avait proposée. Entre parenthèses, si l'on applique à certains aspects de l'œuvre de Proust elle-même un type de réflexion qui abonde au sein de cette œuvre, quand il s'agit de souligner les changements prodigieux, les inversions stupéfiantes qui peuvent s'opérer en peu de temps dans les esprits, en particulier dans le domaine moral et juridique. On pourrait souligner combien nous paraît déjà à des années-lumière une époque où l'on parlait avec tant de gravité de l'homosexualité, ton qui illustre en particulier naturellement le début pathétique de Sodome et Gomorre, et avec tant de légèreté de la pédophilie, comme c'est le cas ici et ailleurs, à plusieurs reprises dans la recherche. Enfin, dans un autre passage mémorable, situé dans le temps retrouvé, Françoise, qui estime que les filles du peuple n'ont que ce qu'elles méritent si elles souffrent au moment d'accoucher. Françoise, qui a été comparée lorsqu'elle surprend le narrateur et Albertine enlacée à une allégorie de la justice éclairant le crime. Françoise, dont le narrateur prend soin de garantir une fois encore, à l'intérieur même de ce passage, la parfaite moralité, s'extasie sans avoir de doute sur leur relation, est-il bien précisé plus loin, sur la gentillesse à son égard des protecteurs successifs qu'a trouvé Théodore, et ne s'indigne que dans les moments où elle considère que ses prévenances ne sont pas suffisamment payées de retour. Françoise, qui avait déjà vu tout ce que M. de Charlus avait fait pour Jupien et tout ce que Robert de Saint-Loup faisait pour Morel, n'en concluait pas que c'était un trait qui reparaissait à certaines générations chez les Guermantes, mais plutôt, comme le Grandin aidait beaucoup Théodore, elle avait fini, elle, personne si morale et si pleine de préjugés, par croire que c'était une coutume que son universalité rendait respectable. Elle disait toujours d'un jeune homme, que ce fût Morel ou Théodore, « Il a trouvé un monsieur qui s'est toujours intéressé à lui et qui lui a bien aidé. » Et comme en pareil cas, les protecteurs sont ceux qui aiment, qui souffrent, qui pardonnent, Françoise, entre eux et les mineurs qu'ils détournaient, n'hésitez pas à leur donner le beau rôle, à leur trouver bien du cœur. Je mentionnerai sans m'y attarder une sorte de symétrique de ce comique d'amoralité, le rôle que joue dans la recherche, surtout dans ses derniers volumes, au moment où le lecteur est fort bien renseigné sur le passé souvent douteux des protagonistes du roman, un certain comique inverse, un comique de moralité, qui contribue lui aussi chez Proust à brouiller les cartes, voire à saper les bases, en l'occurrence les bases de la respectabilité à la fois morale et sociale de façade. Charlus s'érigeant en sévère défenseur de la morale et en protecteur fidèle des ménages, impitoyable pour les nouvelles maîtresses de Swann, comme pour les projets cyniques de séduction et d'abandon de Morel. Jupien s'indignant bien haut de la liaison de Morel avec Saint-Loup. Morel, lui-même enfin devenu un homme considérable et si respecté que le jour où il est appelé à témoigner en justice, je cite, « sa haute moralité devant laquelle les juges et les avocats s'étaient unanimement inclinés suffit à emporter la décision. » On peut dire que Proust tente à faire sortir du domaine régi par la morale un certain nombre de forces et en même temps de valeurs essentielles pour lui. Le désir, le sentiment, l'art, pour ce qui a trait du moins à la vie privée des écrivains ou des artistes, ainsi qu'à leur œuvre elle-même. Les appréciations que porte Swann sur le salon Verdurin à l'époque de son amour et de sa jalousie pour Odette illustrent comiquement le principe de subordination aux désirs et aux affects des jugements moraux et la propension qu'ont ces jugements à se métamorphoser brusquement et radicalement en fonction du contexte amoureux. Mais, comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore au Verdurin n'auraient pas suffi, même s'il les avait vraiment possédées, mais s'il n'avait pas favorisé et protégé son amour, à provoquer chez Swann cette ivresse où il s'attendrissait sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette. De même, l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui au Verdurin, aurait été impuissante s'il n'avait pas invité Odette avec Forcheville et sans lui à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie. Et il y a la dernière phrase d'Un amour de Swann que je ne reprends pas, que vous avez citée tout à l'heure. Cette démonstration relative à la variabilité des jugements moraux en fonction des désirs serait à mettre en parallèle, sans doute, dans la recherche avec ces autres histoires exemplaires qui tendent constamment dans le domaine politique, en particulier à propos de l'affaire Dreyfus, à opérer une sorte de réduction ironique des opinions aux motivations personnelles intéressées et fluctuantes. Si Swann est au début de la recherche le cas exemplaire illustrant le principe de dépendance de la moralité, son ami Charlus apparaît à la fin du roman comme cet autre cas exemplaire de personnage également proche du narrateur, illustrant quant à lui une sorte de déclaration d'indépendance du désir, aboutissant à la séparation complète de la moralité et de la sensualité. Comme on peut parler à la même époque, dans un autre domaine auquel Proust s'est également intéressé, de séparation de l'Église et de l'État. Rendu perplexe par la scène de flagellation à laquelle il vient d'assister, le narrateur se demande pour quelles raisons les freins n'ont pas fonctionné. Non seulement la morale sociale, ce qu'en dira-t-on dont il peut à la rigueur admettre que l'orgueil aristocratique de Charlus n'a que faire, mais aussi le souci de soi dont parlait Foucault. Je cite « le sentiment de dignité personnelle et de respect de soi-même ». Et trouve immédiatement dans ce principe amoral de dissociation une explication qu'il juge suffisante. L'habitude de séparer la moralité de tout un ordre d'action, je coupe la citation, devait être prise depuis si longtemps que l'habitude, sans plus jamais demander son opinion au sentiment moral, était allée en s'aggravant de jour en jour jusqu'à celui où se promettait consentant s'était fait clouer par la force au rocher de la pure matière. Le narrateur de la recherche n'est pas quant à lui un expérimentateur bien sulfureux en matière de pratiques sexuelles. Il n'aurait tout juste à son actif que le voyeurisme et autres petits crimes. Je dis ici crime à la place de délit pour réemployer ici un anglicisme, en somme fort à propos dans ce contexte, que j'avais trouvé dans des copies d'étudiants à Édimbourg, au moment où j'avais changé mon poste dans le cadre d'un échange Erasmus, dans des essais consacrés aux questions judiciaires au moment où venait justement d'être votée une loi pénalisant le voyeurisme en Grande-Bretagne. Ce qui n'empêche pas le narrateur d'apparaître dans sa réflexion sur le sujet comme un théoricien des plus audacieux. On peut dire en effet que la plus grande partie du discours didactique et apologétique qu'il tient à titre de commentaire des scènes les plus crues ou les plus perverses auxquelles il lui est donné d'assister aboutit à soustraire le champ entier de la sexualité, quelles que soient les préférences sexuelles, les scénarios fantasmatiques et pervers ou les organisations vénales au domaine de la morale, plus radicalement sans doute et en tout cas moins prudemment que Freud ne le faisait à la même époque. La thèse du narrateur, qui pratique lui aussi une étonnante dissociation paradoxale, étant que la moralité peut parfaitement continuer à exercer son emprise dans tous les autres domaines sur les êtres sexuellement les plus dépravés, sans être affectée par les turbulences de ce champ indifférent du désir et du plaisir, domaine où tout est possible, pour ne pas dire, selon l'expression dostoïevskienne, où tout est permis. Ainsi, les profanations de Montjouvain sont censées ne pas affecter la piété filiale de Mademoiselle Vinteuil, de même que le patriotisme fervent des jeunes employés de la maison de passe de Jupien ne fait, par ailleurs, aucun doute. Si l'on compare l'accompagnement apologétique à l'occasion de ces deux exemples limites, du début et de la fin de la recherche, on constatera avec surprise que dans un cas, ce sont l'absence de naturel, le sentiment d'artifice éprouvé durant le scénario pervers qui sont invoqués à titre de preuve de ce que Mademoiselle Vinteuil n'est pas foncièrement immorale. Alors que dans le second cas, au contraire, les circonstances atténuantes qui permettent aux officiants de l'hôtel de Jupien d'échapper au verdict d'immoralité attendu sont, de manière quelque peu contradictoire, le parfait naturel, l'absence de conscience avec lesquelles ils s'acquittent de leur besogne perverse. Je cite, « Ils ne se rendaient plus compte depuis longtemps de ce que pouvait avoir de moral ou d'immoral la vie qu'ils menaient. » Qu'importe, de toute façon, on a l'impression que dans ces deux cas particulièrement délicats, l'important est que la question de la moralité des actes relevant du fantasme, du plaisir et de la sexualité ne soit pas soulevée, parce qu'elle aura été jugée par l'auteur, comme disait Nabokov, dictateur et donc à plus forte raison juge tout-puissant dans ce petit monde, irrecevable, cette question ne sera pas posée. Si Proust avait vécu assez longtemps pour lire le principal ouvrage de Bergson consacré à la morale, les deux sources de la morale et de la religion, il aurait pu ajouter aux différences relatives, par exemple, à la conception de la mémoire qu'il signale avec un peu d'agacement pour s'inscrire en faux contre l'hypothèse d'un possible copiatage, c'est un mot proustien, comme on le sait, de sa part de la philosophie de Bergson, les rapports bien plus conflictuels dans son œuvre entre morale de la contrainte et morale de l'élan et de l'aspiration, entre morale du lien social et morale de la fraternité humaine. Ces secondes formes élargies, ouvertes de morale, devant en quelque sorte chez Bergson venir parachever harmonieusement l'œuvre des morales closes. Ne serait-ce que parce que la morale sociale a toujours été perçue par Proust comme ayant une tendance fâcheuse à manquer d'humanité, à désigner des boucs émissaires et à faire hurler avec les loups. Qu'il s'agisse d'un homme politique accusé de corruption et traîné dans la boue par la presse, par la justice, par l'opinion publique, par tous ceux qui le courtisaient autrefois, c'est l'épisode dramatisé du scandale Marie dans Jean Santeuil, ou qu'il s'agisse d'un homosexuel trop voyant et trop orgueilleux que la patronne du petit noyau Verdurin a décidé de dénoncer et d'exécuter avec l'aide de ses fidèles. Le premier de ces épisodes donne l'occasion à Proust de faire preuve d'un sentiment dont on sait s'il est louable, mais dont il convient en tout cas de souligner l'originalité, une intense pitié pour les palpitations cardiaques du prévaricateur accusé de détournement de fonds publics. Et le second épisode permet au narrateur de la recherche d'introduire à nouveau, dans une phrase importante en forme de manifeste personnel, cette notion capitale d'indifférence que nous avons déjà évoquée, présentée ici sous forme d'un triptyque vraiment impressionnant. Indifférence aux opinions sur les mœurs, au sentiment de la justice, au sens moral lui-même. Seuls ne sont en revanche nullement indifférentes au narrateur les souffrances infligées à un être faible et malheureux. Mais, indice sans doute du fait que Proust a de la morale une conception qui reste marquée au sceau d'une impitoyable rigueur kantienne, le narrateur raisonne ici en termes d'écart audacieux et un peu scandaleux et appelle indifférence à la morale, ce qui pourrait après tout s'appeler dans d'autres formes de pensée, morale du sentiment ou de la pitié, ou simplement aujourd'hui respect de la personne humaine. La citation que vous avez donnée, le sentiment de la justice jusqu'à une complète absence de sens moral m'était inconnue. Et je donne peut-être la suite parce qu'elle est vraiment révélatrice. J'étais au fond de mon cœur tout acquis à celui qui était le plus faible et qui était malheureux. Je n'avais aucune opinion sur la mesure dans laquelle le bien et le mal pouvaient être engagés dans les relations de Morel et de M. de Charlus. Mais l'idée des souffrances qu'on préparait à M. de Charlus m'était intolérable. On pourrait également considérer que l'attitude du narrateur est moins en contradiction avec la pensée du principal professeur kantien qui était Proust à l'université, Émile Boutroux, qui, contrairement à Darlus, son professeur de lycée, avait cherché à empiriser, à humaniser la philosophie kantienne en réservant une place plus grande à la liberté qu'avec la pensée de Kant lui-même, dont ce professeur de philosophie morale à la Sorbonne qu'est Brichot donne d'ailleurs au cours du même épisode l'image peu glorieuse d'un système sophiste et inapplicable. Lorsqu'il avoue au narrateur chercher en vain dans les souvenirs du cours qu'il a donné sur l'œuvre de Kant la solution du dilemme qui se pose aujourd'hui à lui. Faut-il, parce que c'est un être immoral, accepter de trahir un ami ? Madame Verdurin venant de confier à Brichot la mission de faire diversion auprès de Charlus, tandis qu'elle préparera son exécution. Mission dont Brichot s'acquittera en fin de compte avec lâcheté et avec zèle, permettant ainsi la juxtaposition didactique au sein de ce passage mémorable de la prisonnière, selon les catégories que je propose, d'une énergique profession de foi amorale du côté du narrateur et d'une variante originale du comique de moralité du côté de Brichot. C'est sans doute dans Jean Santeuil que l'on trouve les formulations qui évoquent l'art pour l'art le plus radical, dans son mépris pour toute forme d'éthique et dans sa sacralisation corollaire du beau. Lui qui savait qu'il n'y a ni bien, ni vrai. Le bien était ce qui favorisait son inspiration, le mal, ce qui la paralysait. C'est ensuite essentiellement dans une double perspective que Proust abordera la question de la séparation de l'art et de la morale. D'une part, en traitant de l'indifférence du sujet de l'œuvre d'art dans le temps retrouvé et en polémiquant avec les tenants d'une littérature engagée du côté de la morale sociale, selon les catégories actuelles, soit à droite, art patriotique largement prôné pendant la guerre de 14, notamment par Barrès, soit à gauche, conception d'un art militant qui se ferait un devoir d'évoquer surtout la vie des gens du peuple. Et d'autre part, en accordant une grande place dans la genèse de son roman, ainsi qu'en témoignent les carnets, au problème de la et la moralité dans la vie quand il s'agit des écrivains ou des artistes. Problème qui le préoccupait du reste déjà à 13 ans, à l'époque où il affirmait, en réponse à une interrogation du fameux questionnaire d'Antoinette Faure, que c'était pour les fautes commises dans la vie privée des génies qu'il avait le plus d'indulgence. « For what fault have you most toleration ?» Pour la vie privée des génies. Là aussi intervient une notion d'inversion, de renversement, d'inadéquation des hiérarchies morales habituelles, cautionnée quant à elle par une voix auctoriale qui a perdu les inflexions ironiques dont étaient empreints les commentaires relatifs aux inversions des valeurs ordonnées par les codes sociaux. Une note à la première conférence « Sésame des trésors des rois » de Ruskin expliquait par exemple ce que vous avez dit tout à l'heure, que la débauche était moins à craindre pour les génies que le snobisme. Le leitmotiv des dispenses sacrées accordées aux artistes au nom du, je cite, « devoir de vivre pour eux-mêmes » par rapport aux obligations qu'impose la sociabilité ou l'amitié, aboutit dans la recherche à l'instruction finale que se donne à lui-même le narrateur, une fois qu'il se sera enfin mis à l'œuvre, de ne même plus céder à l'obligation factice de se montrer poli et sensible. On remarquera enfin et surtout qu'à l'origine du roman, à ce point de convergence cruciale de l'affectivité et de l'intellectualité, et aussi de l'essai et de la narration. Même s'il s'agissait d'exposer des théories sur la littérature, c'eût été en effet dans un cadre et dans un contexte éminemment affectif. Puisque ces idées auraient dû avoir pour destinataire un être particulièrement aimé, prendre la forme intime d'une conversation avec maman au réveil, et puisqu'en outre les idées en question auraient abordé un sujet particulièrement sulfureux pour la mère et pour le fils, celui de la continuité ou de l'absence de continuité, notamment sur le plan moral, entre les vies et les œuvres. Au point de départ du grand roman de Proust, donc, il y a cette espèce d'étrange disputatio affectueuse visant de la part du fils à convaincre la mère du caractère amoral de l'art et de la littérature, produit d'un autre moi que le moi qui vit et soumis à d'autres critères d'appréciation que ceux selon lesquels on évalue et juge les vies. À l'encontre de la conception plus sandienne que flaubertienne que la mère elle-même en avait auparavant. En somme, art pour la distinction morale, art pour l'amour, art pour l'humanité. Conception de la littérature qui est discrètement désapprouvée au début de Combray à propos de cette mille lectures à haute voix qui aura succédé au dénouement inattendu du drame du coucher. Quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieurs à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard, à ne pas tenir également pour supérieurs à tout dans les livres. Et cependant, si une certaine forme de rédemption éthique est présente à la fin de la recherche, c'est en grande partie à travers les évocations du travail de l'écrivain et de la mission assignée à l'œuvre d'art. Démonstration qui, paradoxalement, s'appuie d'abord sur l'exemple de Bergotte, dont la vie est pourtant réputée notoirement immorale. Mais nulle ironie à ce sujet dans le texte qui accompagne le récit de sa mort. Il n'y avait jadis dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs que le peu subtil, malgré ses circonlocutions habituelles, et mesquin Norpois, pour faire des gorges chaudes de la contradiction qu'il croyait pouvoir stigmatiser entre la présence de passages presque moralisateurs dans les livres de Bergotte et le caractère peu édifiant de l'existence du maître. Pour y voir en quelque sorte à son tour, comme beaucoup de lecteurs sarcastiques des derniers livres de Tolstoï, du comique de moralité. Ce sera donc à la mort de Bergotte que surgiront les lignes les plus indubitablement kantiennes de la recherche, qui vont en somme contrepoids à cette satire du kantisme sans main, selon l'expression de Peggy, à laquelle les palinodies de Brichot au moment de l'exécution de Charlus par Madame Verdurin donneront matière. Lignes dans lesquelles l'immortalité de l'âme, voire l'existence de Dieu, sont en somme postulées par la présence de la loi morale dans l'esprit des hommes, et particulièrement des artistes les plus exigeants et les plus scrupuleux, le beau devenant alors, de manière également très kantienne et bien peu art pour l'art, le symbole du bien. Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer 20 fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner, revivre sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous en portions l'enseignement en nous sans savoir qui les y avait tracées. On verra également réapparaître avec surprise, au sein de la méditation finale du temps retrouvé sur la littérature et sur l'art, quelques-unes des notions les plus chères à ce XVIIIe siècle optimiste, sociable, prométhéen, dont Proust dit habituellement tant de mal, on a vu cela l'année dernière, celles de progrès, de bonheur, de travail, d'utilité, d'altruisme, voire de fécondité à travers l'insistance avec laquelle sont filées les métaphores de l'engendrement pour évoquer la naissance de l'œuvre à venir. Et même si Proust ne croit pas en l'idée de Bildung, cette idée fondamentale dans la littérature germanique, dans le domaine social et politique, la fin de la recherche suggère tout de même avec insistance la possibilité d'un progrès dans les vies individuelles, vers davantage de sagesse, vers davantage de maîtrise, vers un dépassement de ses sottises et de ses égarements, comme disait Goethe à propos du dénouement de ses années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Et bien sûr, pour un écrivain ou pour un artiste, à la fois vers la maturation progressive et vers l'éclosion soudaine de son génie créateur. Dans la tradition aussi de ces grands romans de formation européens du XIXe siècle, c'est un sujet sur lequel j'ai personnellement travaillé, dont Proust était un lecteur assidu. C'est le travail créateur de Mille et une nuits au moins qui sera censé, s'il en est temps encore, car la dimension du doute et du risque perdure jusqu'au bout, rendre au narrateur à la fin de sa vie cette volonté mythiquement perdue la nuit du baiser, au moment où l'explication par la maladie aura fait basculer sa vie du côté de l'irresponsabilité. Volonté déjà indiquée d'ailleurs, déjà invoquée lors de l'épisode de la Madeleine, en termes assez moraux pour faire obstacle à la, je cite, lâcheté qui empêche l'élucidation des souvenirs involontaires, eux-mêmes prémices de l'œuvre à venir. Cette volonté que Proust, en renouant avec une des bases de cette morale inculquée au sein de sa famille, présente dans le temps retrouvé, presque incidemment et sous forme d'évidence, comme la vertu morale suprême, antidote de tous les vices. Je cite, « Quelque vice est le plus grand de tous, le manque de volonté qui empêche de résister à aucun. » Il y a enfin cette curieuse expiation que le narrateur appelle de ses vœux pour lui-même en rapport avec l'écriture de son œuvre, mais qui ne devra intervenir qu'après l'achèvement de celle-ci. Variation originale sur bien des sources intertextuelles, dont sans doute les livres d'Oscar Wilde, qui étaient bien plus importants que le dit Proust, sûrement un peu partout, pour différentes raisons, Crime et châtiment de Dostoïevski, et naturellement le pacte des mille et une nuits, postulant un sursis accordé tant que le récit se racontera. Rappelons la logique fantasmatique de cette culpabilité. Le narrateur aura hâté, par les mauvais traitements qu'il leur aura fait subir, les morts respectives de sa grand-mère et d'Albertine. En outre, il aura utilisé pour écrire son œuvre ses êtres chers et se sera montré indifférent à leur souffrance. Nouvelle occurrence de ce terme capital, mais cette, je cite, « indifférence aux souffrances qu'on cause », que Proust appelle la forme terrible et permanente de la cruauté, n'est justement plus moralement indifférente du tout et représentera même une des principales résurgences dans l'œuvre d'une certaine forme d'impératif et d'interdit moraux. Le narrateur devra donc expier sa faute une fois son œuvre achevée. Dans ces moments-là, rapprochant la mort de ma grand-mère et celle d'Albertine, il me semblait que ma vie était souillée d'un double assassinat que seule la lâcheté du monde pouvait me pardonner. Où puissais-je, en expiation, quand mon œuvre serait terminée, blessée sans remède, souffrir de longues heures, abandonnée de tous, avant de mourir. J'ai mentionné à propos de cette résurgence finale de la dimension morale et de la culpabilité l'imprégnation dostoïevskienne si sensible à la fin de la vie de Proust et dans la dernière partie de la recherche. Il est en effet probable que cette étonnante assimilation du vice au crime qu'a mise en lumière Antoine Compagnon dans une communication récente a pour ancrage dans les derniers volumes du roman une série d'identifications à demi-sérieuse et à demi-ludique à l'univers des romans de Dostoïevski, en quelque sorte par amplification et par exagération. Ainsi, l'amant soupçonneux sera assimilé au policier enquêteur, la transgression sexuelle au crime caché, un comportement cruel, le vœu de mort, l'apparente indifférence au moment d'une mort ou l'utilisation littéraire d'une mort à un assassinat. Risquons une hypothèse intertextuelle plus précise. Raskolnikov, lui aussi, ne tue pas une seule fois, mais deux. Il assassine d'abord une vieille femme, comme on le sait, et ensuite une femme sensiblement plus jeune, la demi-sœur de l'usurière. La plus jeune a été présentée comme angélique, la plus âgée comme démoniaque. Les rôles seront inversés dans la recherche, mais demeureront tout aussi manichéens. Poursuivons même l'analogie. Le mobile du meurtre aura été, comme dans Crime et châtiment, un projet mégalomane, la volonté de devenir un grand homme. sinon un nouveau Napoléon, ambition de Raskolnikov, du moins ce qui n'en est pas si éloigné, un nouveau Victor Hugo, ainsi que l'avait tout de suite deviné l'oncle Adolphe, qui, afin de dissuader sa maîtresse Odette, la dame en rose, de distraire son neveu en lui envoyant par petits bleus des invitations à venir prendre cup of tea, bougonnait « Mais non, c'est impossible, il est très tenu, il travaille beaucoup. » Qui sait, ce sera peut-être un petit Victor Hugo. Je dirais en conclusion, j'arrive dans ma conclusion, qu'on trouve dans la recherche à la fois un récit mythique de la victoire originaire de la moralité, elle apostrophe sur la loi morale, lors de la scène primitive de Combray. Une rhétorique et une logique complexe de la moralité qui multiplie les paradoxes sulfureux, qui brouille les cartes et sape les bases dès qu'il est question de problématiques relatives aux mœurs. Et enfin, un comique particulier d'amoralité qui fait rire d'une indifférence morale soudain dévoilée qui compromet jusqu'aux autorités sociales apparemment les plus respectables. Autant que de l'audace d'une vision du monde qui aboutit en fait à soustraire à l'emprise du jugement moral le domaine entier de la vie sociale, régi par des codes amoraux, le domaine entier de la sexualité, régi par un désir protéiforme qui n'a que faire de la morale, et le domaine entier du sentiment, régi quant à lui par des sympathies arbitraires, on admire le ton posé, humoristique, le naturel avec lesquels la recherche expose des idées sans doute tout aussi audacieuses et tout aussi sulfureuses que ne le sont les scènes les plus crues du roman. La profanation de Montjouvain, la conjonction entre Charlus et Jupien ou les scènes de flagellation du temps retrouvé. Ça aurait été ma thèse finalement d'essayer de montrer que les idées sont largement aussi sulfureuses, largement aussi immorales ou amorales chez Proust que les scènes. Pour filer des métaphores proustiennes qu'on reconnaîtra au passage, tente la morale de l'impudeur théorique en quelque sorte, naturelle avec lequel une mystérieuse loi sacrée semble enjoindre à l'auteur de la recherche d'assassiner en masse, sereinement et sans scrupule, par le récit exemplaire, par la logique ou par le rire, les fondements même des jugements moraux. Alors que Proust refuse toute forme de subordination de l'art à la morale, ainsi que toute appréciation d'une œuvre qui serait fondée sur le degré de moralité ou d'immoralité supposée de la vie de son auteur, étonne moins en revanche. Ce qui étonnerait davantage est plutôt au contraire que ce soit le surgissement final de la vocation du narrateur et avant lui la mort de l'écrivain Bergotte qui fasse réapparaître sous diverses formes, hypothèse de l'immortalité de l'âme postulée par la présence de la loi morale dans l'esprit de l'artiste, réapparition de valeurs collectives altruistes, allégorie de la victoire au moment du processus créateur de la volonté sur la paresse et sur la lâcheté, sentiment de culpabilité et aspiration dostoïevskienne à l'expiation, une certaine dimension éthique au sein de la recherche, à laquelle on est d'ailleurs tenté d'accorder davantage de foi qu'à ces tentatives plus maladroites et plus didactiques, vous en aviez parlé la dernière fois, de réhabilitation morale de fiefs méchants. C'est intéressant pour les théoriciens de la lecture, c'est-à-dire que le narrateur le dit, mais on n'y croit pas vraiment, comme les Verdurin qui auraient fait une petite pension, incognito à leur souffre-douleur, saignette, etc. C'est un peu systématique ce renversement à la fin de la recherche. En revanche, que le narrateur soit plus pervers et plus génial qu'il ne voulait bien l'avouer, il y avait un certain temps que l'on s'en doutait. Si bien que le même lecteur est parfaitement disposé à le croire sur parole, quand il commence à se mettre enfin à appliquer à son propre cas le principe de relativité des jugements moraux, et la réflexion matricielle des carnets tournant autour de la et la moralité, ce qui signifie alors surtout l'indifférence morale, ou, comme on dirait couramment plus tard, la moralité l'apostrophe, de ce que Proust appelle joliment dans ses carnets par opposition aux, je cite, les écrivains société, les écrivains solitude. Je vous remercie.